Chapitre 3. Un quart d'heure plus tard, l'étranger était étendu sur un lit, dans une petite chambre, au rez-de-chaussée du château. Madame de Pinvalas lui avait fait boire un cordial, en attendant l'arrivée du médecin. Celui-ci ne tarda guère. Il examina soigneusement le malade, l'ausculta longuement, et dit, d'un ton laconique, « Il vous faut beaucoup de repos. » L'homme dont le visage restait étrangement altéré demanda de cette voix tout affaiblie qu'il avait maintenue « Qu'est-ce que c'est ?» Le médecin hésita avant de répondre « Rien de particulièrement grave. En vous soignant, dites la vérité, je veux savoir. Est-ce que je suis perdu ?»« Non, pas perdu. Mais voilà, si vous avez des dispositions à prendre, il serait plus prudent. » Une lueur de détresse passa dans les yeux du colporteur, dont la souffrance altérait maintenant le vif éclat. Puis l'étranger murmura « Bien, j'aime mieux savoir. Est-ce que c'est pour bientôt ?» Le médecin eut un geste évasif. « Oh, je n'en sais rien, mon ami. Je ne dis pas que le danger soit immédiatement à craindre. C'est par précaution seulement que vous devez être prêt. Merci, monsieur le docteur. » Quand le médecin fut hors de la chambre, il répondit à madame de Pinvalas qui l'interrogeait. « Rien à faire. C'est une aortite, survenue de façon presque foudroyante. Il passera dans une prochaine crise, qui est imminente. » Madame de Pinvalas joignit les mains. « Le malheureux. Et cette pauvre petite ?» Le médecin hocha la tête. « Oui, c'est triste. Ils ont l'air de gens pauvres. La petite est jolie, une tête peu ordinaire. Il faudrait tâcher de vous informer près d'elle de ce qu'ils sont, madame la marquise. » « Oui, mais rien ne presse. Pour le moment, je ne vois en eux que des gens ayant besoin de secours, quels qu'ils soient. » « Alors il n'y a rien à tenter pour ce pauvre homme, docteur ?»« Rien, madame, sinon de petites choses pour atténuer la souffrance, quand il aura une nouvelle crise. » »« Je reviendrai tout à l'heure. Maintenant, je retourne près des enfants de Cadix, dont l'un est presque sauvé, tandis que l'autre, il m'inquiète beaucoup, je vous le dis franchement, madame la marquise. » Tandis que le médecin s'entretenait avec madame de Pinvalas, Elsa s'était agenouillée près du lit et appuyait ses lèvres sur la main de son père, couverte d'une moiteur froide. Elle avait compris, en entendant le bref dialogue entre le docteur et le malade. Celui-ci était condamné. Avec des yeux agrandis par le désespoir, elle considérait le visage tiré qui prenait une teinte de cendre, les yeux fixes, perdus, en des réflexions qui amenaient sur cette face un rictus de douleur et de colère. Puis l'homme regarda sa fille, mit la main sur ses cheveux, indiqua du geste qu'elle s'approcha très près, plus près encore, qu'elle mit son oreille contre sa bouche. Et alors il parla, très bas, en allemand cette fois. Puis il se tut un moment, réfléchit encore, les sourcils froncés par la tension de l'esprit. Et il parla de nouveau, prononçant des paroles qui firent d'abord sursauter Elsa. D'un geste impératif de sa main droite, il les appuyait. « il faut !» disait ce geste. Elsa courbait la tête, répondait « ya, ya !» Puis elle baisa le front de son père en murmurant quelques mots qui parurent satisfaire le mourant, car un éclair passa dans ses yeux fatigués tandis qu'il répétait « Deutschland, Deutschland, der Kaiser, Arbeit für ihn !»« Allemagne, Allemagne, l'empereur travaille pour lui !» Un instant plus tard, madame de Pinvalas entrait dans la chambre. Elle adressa quelques bonnes paroles à l'homme et à l'enfant, s'informa si le malade souhaitait quelque chose. Il remercia en ajoutant « Je n'aurai plus besoin de rien maintenant. Je suis fichu. Enfin, un peu plus tôt, un peu plus tard. Je suis prêt, c'est l'essentiel. » Madame de Pinvalas interpréta cette dernière phrase dans un sens qu'elle n'avait pas, car le colporteur ne faisait aucunement allusion à la préparation de son âme en la prononçant. C'était à autre chose qu'il avait mis ordre avant de quitter ce monde. Faisant signe à la petite fille, la marquise l'emmena dans la pièce voisine. « Votre père est catholique, mon enfant ?»« Non, madame, nous sommes protestants. »« Ah, En ce cas, je ne puis lui offrir les secours de notre religion. De quel pays êtes-vous ? De Suisse, madame. Papa est colporteur, et comme maman est morte voilà déjà longtemps, je le suis partout. Avez-vous encore des parents là-bas ? Non, plus personne. Je serai toute seule quand... quand... Un sanglot lui coupa la parole. Des larmes jaillirent de ses yeux. Madame de Pinvalas la prit entre ses bras, maternellement. Ma pauvre petite. Soyez courageuse, chère enfant, vous ne serez pas abandonnée. Puisque Dieu vous a amenée à notre porte, je m'occuperai de vous. Elsa prit la main de l'excellente femme et la baisa en murmurant d'une voix que les larmes entrecoupaient. « Oh, madame, merci, merci. Je vais le dire à mon pauvre cher papa, qui est si inquiet de savoir ce que je deviendrai après lui. Comme cela, il s'en ira plus tranquille. Je vais le lui dire moi-même, mon enfant. » La châtelaine rentra avec Elsa dans la chambre du mourant. Celui-ci tourna les yeux vers elle et dit faiblement « Je m'excuse, madame, de vous donner tout ce mal. » Madame de Pinvalas s'approcha et mit sa main sur celle de l'étranger. « Non, mon ami, je suis heureuse, au contraire, d'avoir pu vous rendre service. Et soyez assurée que si Dieu vous rappelle à lui, votre petite-fille trouvera ici tout l'aide et la protection nécessaires. » De nouveau, la lueur brilla, fugitivement, dans les yeux ternis par la souffrance. L'homme joignit les mains et murmura, en attachant sur la marquise un regard d'ardente gratitude. « Oh, madame, madame, quel poids vous m'enlevez! Quelle reconnaissance est la mienne, ma petite Elsa! C'est une angoisse atroce de penser que je la laissais après moi, seule, toute seule, et si pauvre, madame! Soyez bénie, bénie! Elsa, tu seras toujours reconnaissante !» Un étouffement lui coupa la parole. C'était une nouvelle crise qui survenait. Et comme l'avait prévu le médecin, elle fut la dernière. Une demi-heure plus tard, le colporteur reposait, rigide, les traits détendus, tandis que, près de lui, Elsa pleurait, silencieusement, le front entre ses mains. L'étranger, Walter Hoffel, de Zurich, ainsi que le prouvaient les actes de naissance et de mariage remis par sa fille, fut enterré 2 jours plus tard dans le petit cimetière de Connestel. Et madame de Pinvalas décida que l'orpheline recevrait une éducation en rapport avec sa condition. Mais cette condition, quelle était-elle véritablement? L'enfant semblait bien élevé, elle avait même des manières plutôt distinguées. Son père, chemin faisant, l'avait, en outre, sérieusement instruite pour son âge. Interrogée par sa protectrice, elle lui apprit que Walter Hoffel était le fils d'un médecin, qu'il appartenait à la bonne bourgeoisie de Zurich, et lui-même avait fait d'excellentes études. Mais il n'avait pas réussi, disait-il. Puis, ayant perdu sa femme qu'il aimait beaucoup, il avait quitté son pays à demi-fou, emmenant sa petite fille, alors âgée de 5 ans. Depuis lors, il avait erré de ci, de là, semant les débris de sa fortune, obligé bientôt d'adopter ce métier de colporteur pour gagner son pain. Un pauvre être que la souffrance, l'insuccès, peut-être quelques vices, ont fait déchoir de sa condition, pensa madame de Pinvalas. Après avoir consulté le curé de Connestel et le docteur Barreau, la marquise résolut, avant de rien décider pour l'orpheline, de faire prendre à Zurich des renseignements. En attendant, Elsa restait à Runesto. Elle n'était pas gênante, paraissant de caractère paisible et discret, s'offrant toujours à rendre service. Armelle de Pinvalas, qui était gracieuse et douce, lui témoignait une aimable sympathie. Par contre, Alain, tout en se montrant bon pour elle, disait à sa grand-mère « C'est curieux comme elle me déplaît, cette petite. » Madame de Pinvalas répliquait « C'est une idée, mon enfant. Elle est très gentille, très comme il faut. Sa physionomie est un peu étrange, évidemment. Mais cela tient à ce bizarre contraste entre le visage et la chevelure. Et beaucoup de gens trouveraient que cette étrangeté même lui donne un grand charme. Eh bien, je ne crois pas que je serai jamais de ces gens-là, grand-mère. » La bonne châtelaine aurait peut-être changé d'avis si, Quelques jours après la mort du colporteur, elle avait pu voir Elsa se glisser dans la bibliothèque, s'emparer sur un bureau d'une feuille de papier et d'une enveloppe, inscrire sur celle-ci une adresse, puis y apposer un timbre pris dans la boîte de la marquise. Après quoi, l'enfant remonta dans la chambre qu'on lui avait attribuée, écrivit au crayon sur la feuille, mit celle-ci dans l'enveloppe qui, dûment cachetée, alla rejoindre les papiers, le calepin du colporteur, caché dans le corsage d'Elsa. Le lendemain, dans la matinée, la petite fille sortit du château, fit un détour par les jardins pour revenir vers l'allée conduisant à l'entrée. Là, s'arrêtant à peu près à mi-chemin de cette entrée, elle se tapit derrière une haie et attendit. Au bout d'un quart d'heure, elle vit passer le facteur, qui s'en allait vers le château. Il y resta un bon moment, car on lui donnait toujours une bolée de cidre. Puis il reparut, marchant sans hâte, son bâton à la main. Comme il allait dépasser les deux piliers de l'entrée, une voix d'enfant derrière lui appela « Monsieur, monsieur le facteur !» Il se détourna. Elsa courait pour le rejoindre, une enveloppe à la main. « S'il vous plaît, on a oublié de vous donner cette lettre au château. Madame la marquise m'envoie pour vous la porter. » « Ah, merci, ma petite demoiselle !» Il prit l'enveloppe, y jeta machinalement les yeux. Elle portait cette suscription. « Monsieur Mulbach, fourreur, boulevard des Capucines, Paris. » Sans y attacher aucun intérêt, le facteur envoya cette lettre rejoindre les autres dans son sac et continua sa route pendant qu'Elsa regagnait paisiblement le château. C'était l'heure où Armel travaillait avec son institutrice. Dans l'après-midi, Elsa était invitée à se joindre à la petite châtelaine qui s'en allait en promenade avec Miss Juxton. Mais le matin, elle était libre pour le moment, Madame de Pinvalas ne lui assignant pas encore de tâches précises. Cette petite avait nécessairement une vie un peu bohème, disait-elle. Il est donc utile de ménager la transition. Ce fut en raison de cette liberté qu'un matin, 3 jours plus tard, l'orpheline alla s'asseoir à la pointe du promontoire, le dos contre la vieille maison, contre le mur de la chambre d'Évène Leroux. Et là, elle attendit. Une demi-heure passa. Nerveusement, elle se leva de temps à autre, longeait la maison, regardait au loin. Puis elle revenait à son poste, s'asseyait à nouveau sur le roc, et elle murmurait « Quelque chose l'a peut-être empêché de venir. Pourtant, il a dû faire tout son possible, car c'est très sérieux. » Tout à coup, elle prêta l'oreille. Oui, elle entendait un bruit de pas. Elle sursauta, se leva, et presque au même instant, un homme tourna l'angle de la maison. Elle courut à lui les mains tendues. « Cousin Ulrich, je craignais que vous n'ayez pu venir. »« Si, ma petite, si. Mais à la gare de Kéruel, il a fallu trouver une voiture pour me conduire ici. » Tout en parlant, il se penchait pour embrasser l'enfant. « Eh bien, ton pauvre papa, en voilà une nouvelle que tu m'as annoncée là. » Alors comme ça, tout d'un coup, la fillette dit d'une voix enrouée, « Oui, déjà la veille, il se sentait fatigué, il souffrait. Où est-il mort? Comment cela s'est-il passé ?» Elsa fit alors le récit des événements qui avaient précédé la mort de son père. Ulrich Mulbach l'écoutait avec attention. C'était un homme d'une 40aine d'années, petit, bedonnant, de mine florissante et de physionomie bonasse. Mais le regard avait parfois une expression donnant à penser que le personnage devait être beaucoup plus retors qu'il n'en avait l'air. Sa tenue correcte, presque élégante, était celle d'un bourgeois cossu. Et de la pochette de son gilet de fantaisie sortait une fort belle chaîne de montre décorée de petites breloques. De temps à autre, il interrompait le récit de l'enfant par des exclamations. « Ce pauvre Oscar ! Mourir comme ça sur la route !» Puis quand Elsa eut achevé, il dit solennellement « Ma chère enfant, sois fière. Ton père est mort au service de la patrie. » Les yeux d'Elsa s'animèrent sous leur voile de larmes. « Oui, je sais. Pour l'Allemagne et l'Empereur. Et moi, cousin Ulrich, je les servirai aussi. Papa m'a dit, tu continueras ma tâche. Tu seras, comme je l'ai été, l'un des mille préparateurs du triomphe allemand, de l'hégémonie impériale. » Ulrich, appuyé sur le manche d'argent de son parapluie, considérait la petite fille qui s'exaltait. « Hé, mais tu es bien jeune, enfant. Voyons, d'abord, explique-moi pourquoi tout ce mystère, pourquoi tu dois passer pour n'avoir plus de parents. Parce qu'il faut que je devienne la pupille, la protégée de la marquise de Pinvalas. Je ne comprends pas le but. Papa m'a dit, je juge très utile à notre cause que tu t'introduises dans l'intimité d'une famille française de vieille souche militaire, comme ces Pinvalas. Et même si plus tard tu voyais la possibilité d'un mariage avec l'héritier, n'hésite pas. Il faut la germaniser de toute manière, cette race de France. Puis tu auras là de grandes facilités pour fournir des renseignements intéressants à qui de droit. Les officiers de terre et de mer sont nombreux dans la famille. Une femme adroite, intelligente, jolie par surcroît, car tu le seras, peut beaucoup pour le bien de sa patrie. Voilà, je crois presque mot pour mot, les paroles de papa, cousin Ulrich. Et il a encore ajouté, « Ne crains pas de montrer une grande sympathie pour la France, d'être, en apparence, plus française que les Français eux-mêmes. Peut-être serait-il bon aussi que tu changes de religion, que tu en fasses du moins le simulacre, si ces Pinvalas, comme je le crois, sont de zélés catholiques. Ce serait de l'excellente politique, préparant les voies à la situation que je désire te voir prendre dans cette famille. Et souviens-toi bien, Elsa, que tout, tout est permis, quand il s'agit de servir notre empereur, et d'aider, si peu que ce soit, à la future domination allemande sur le monde. » L'enfant se tut. Ulrich Mühlbach, songeur, la considéra un moment. Puis il dit, lentement, « C'était un bon Allemand, Oscar, un très bon Allemand. Nous faisons là une grande perte. J'ai écrit la nouvelle à Otto. Il sera navré, car il avait ton père en très haute estime. Ainsi donc, ma petite, nous devons t'abandonner à ces Pinvalas. Oui, mon cousin. Oh, je ne serai pas malheureuse. Madame de Pinvalas paraît très bonne. Ses enfants sont bien pour moi. La marquise se chargera de me faire un avenir. Elle me l'a dit. Et je m'arrangerai pour lui plaire, toujours. Soyez sans crainte, cousin Ulrich. D'ailleurs, c'est la volonté de mon père. Ne dois-je pas lui obéir sans discussion? Si, ma fille. Et ce peut être après tout excellent pour toi. Ce pauvre Oscar n'avait pu mettre encore de côté qu'une cinquantaine de mille francs, dont je suis le dépositaire, et que je te remettrai à ta majorité, intérêts compris. On ne les payait pas en rapport avec les services rendus. Mais, avec le temps, et son intelligence aidant, il aurait vu sa situation pécuniaire s'améliorer grandement. La mort a tout bouleversé. Tu n'as donc qu'une petite fortune, Elsa. Et tu peux, en effet, espérer une position bien meilleure en demeurant dans cette famille. Dis-moi, ton père avait-il quelque argent sur lui? Peu de choses. Madame de Pinvalas fera vendre le contenu de sa petite voiture et mettra la somme ainsi obtenue à la caisse d'épargne, m'a-t-elle dit. Mais j'ai quelque chose à vous remettre, mon cousin, quelque chose de très important. Elle prit dans son corsage le calepin et les papiers qu'elle tendit à son parent. Ulrich dit d'un ton de vif intérêt, « Ah, ces notes, ce n'est pas à laisser traîner. Personne n'a rien vu de tout cela. Personne. Bien, ceci est pour Otto, le calepin aussi. Ceci est pour moi. Bien, très bien. Alors maintenant, ma petite, il faut que je te laisse. Mais pourtant, je voudrais bien avoir de tes nouvelles. Et puis, si tu as quelque chose d'intéressant à nous communiquer ?»« J'y ai pensé, cousin Ulrich. En ce cas, je tâcherai de vous écrire, comme je l'ai fait cette fois-ci, et je m'arrangerai pour mettre la lettre dans la boîte qui est près de l'église, en passant par le village, parce que je ne pourrai pas recommencer la petite comédie que j'ai faite avec le facteur l'autre jour, en courant après lui et en lui disant qu'on avait oublié de lui donner cette lettre au château. « Oui, c'est cela. » Au cas où il serait prudent de ne pas écrire ce que tu as à nous dire, mais simplement ceci. Je serai heureuse de vous voir. et alors je viendrai ici, comme je l'ai fait aujourd'hui, ou bien autôt, si je suis empêché. À propos, il quitte l'Espagne, mon frère. Sa maison de commerce, vendue là-bas très avantageusement, il va bientôt s'installer à Paris, avec sa femme. Une charmante personne, cette Pépita. Tu ne la connais pas, fillette ?
Non, pas du tout. Et je n'ai vu mon cousin Otto que 3 fois.
Mais figurez-vous, cousin Ulrich, que cette vieille maison appartient précisément au beau-frère de ma cousine Pépita, un officier de marine, monsieur de Valser. Tiens, par exemple. Et au fait, je me souviens qu'Otto m'a parlé incidemment d'un logis avantageusement situé sur la côte bretonne qu'il désirait acquérir. Oui, il a même prononcé le nom de ce monsieur de Valser, je m'en souviens. Mais comme son genre d'affaires est distinct des miennes, je n'ai pas cherché à connaître le motif de son intérêt. Alors c'est cela, Kereven ? Il considéra un moment la maison et dit dédaigneusement « Ça ne vaut pas cher. » Pourtant, c'est à cause de cette maison que papa est venu ici. Elle l'intéressait beaucoup, lui aussi. Ah, peut-être était-il envoyé par Otto. Ils correspondaient beaucoup ensemble, je le sais. Mon frère a plus d'envergure que moi pour les affaires qui demandent de l'audace. Et puis, il est savant. À Paris, je crois qu'il fera de la bonne besogne. Allons, adieu, mon enfant. Je ne puis m'attarder ici, car il ne faudrait pas qu'on nous vît ensemble. L'endroit est bien choisi pour un rendez-vous. » Il jeta un coup d'œil sur la mer houleuse d'un vert profond baigné de soleil, puis il déclara « Très beau, mais je ne voudrais pas y être un jour de tempête. » Il se pencha et embrassa la petite fille sur les 2 joues. « Si tu as besoin de quelque chose, ou si tu es malheureuse, souviens-toi que les cousins Mulbach sont là. » « Oui, cousin Ulrich, merci. Embrassez pour moi, cousine Gertrude, Lottchen et Melchior. » Oui, cher enfant, tous 3 m'ont chargé de leur baiser pour toi. Au revoir, Elsa. » L'enfant le regarda s'éloigner. Elle ne pleurait pas, et dans ses yeux vifs étincelait une sorte de résolution dure. En secouant la tête, elle murmura. Je sens bien que je ne serai pas malheureuse chez eux, et je veux continuer la tâche de papa, contribuer à faire de la France un pays allemand. Elle revint à pas lents dans la direction du château. Comme elle approchait de l'entrée, 2 jeunes cavaliers la dépassèrent, Alain et son cousin Maurice, revenant d'une promenade à cheval. Le premier se détourna pour jeter ses mots à la petite fille. « Il y a du soleil ce matin. La mer est belle. »« Oh oui, monsieur. » Elle les regarda s'éloigner. Alain montait déjà en cavalier consommé. Maurice, moins souple, un peu lourd, se tenait mal et ne gardait pas bien l'assiette sur sa monture. La petite fille songea. « Il est très bien, monsieur Alain. L'autre jour, sa sœur m'a dit qu'il voulait être officier. Devenir la femme d'un officier français, je crois que c'est tout à fait ce qu'il faudra pour moi. Maintenant, il va retourner à son collège de Quimper, avec monsieur Maurice, puisque les vacances de Pâques sont finies. Et quand il viendra aux grandes vacances, je serai très gentille pour lui, car papa m'a dit « Prépare, prépare de loin, c'est ainsi que réussissent les individus et les nations. » Une 10aine de jours plus tard, madame de Pinvalas recevait la réponse aux renseignements demandés. Comme l'avait dit Elsa, Walter Hoffel descendait d'une honorable famille zurichoise. Intelligent, mais de caractère mou et malchanceux, il occupait une très médiocre situation au moment de son mariage avec une jeune fille de Schaffhausen, orpheline comme lui et pourvue d'une petite dot. Mademoiselle Steinger, fort jolie, très aimée de son mari, mourut presque subitement après 4 ans de mariage. Walter en perdit un peu la raison et un beau jour quitta Zurich avec sa petite fille qui ressemblait à la morte. Depuis, on ne l'avait pas revu. En dehors de cousins à un degré très éloigné avec lesquels il n'avait jamais eu de relation, sa parenté se trouvait éteinte, celle de sa femme également. Donc personne ne réclamerait Elsa, personne n'aurait souci de s'occuper d'elle. Puisque cet enfant appartenait à une famille honorable et d'un certain rang social,
Madame de Pinvalat s'était décidée à la faire élever de façon que, tout en gagnant sa vie plus tard, elle put conserver son rang. Un jour, donc, elle la conduisit à Quimper et la remit entre les mains d'une directrice de pension, femme intelligente et simple, à laquelle, auparavant, la châtelaine avait expliqué la situation d'Elsa. Il faut à cet enfant une éducation très sérieuse, très forte. Elle aura une beauté qui la fera remarquer, qui constituera pour elle un danger dans sa position. Puis aussi, donnez-lui une instruction pratique dont elle puisse tirer profit de bonne heure. Non que je regarde à lui venir en aide le plus longtemps possible, la pauvre petite, mais j'estime qu'une femme jeune et bien portante se doit, en toute dignité, dès qu'elle le peut, de ne plus accepter le secours d'étrangers. Madame Marchais approuva et convint avec Madame de Pinvalas d'un programme qui comprenait à la fois une instruction solide et des connaissances pratiques nécessaires à toute femme, mais plus encore à celle qui demeure seule et pauvre dans la vie. Puis la châtelaine prit congé d'Elsa. La petite fille la remercia de cet air tranquille et gracieux qu'elle avait toujours eu à Runesto. Puis elle baisa la main de sa bienfaitrice en signe de gratitude émue, et dit avec ferveur « Je prierai pour vous, madame, pour vous qui me sauvez. » Madame de Pinvalas dit à la directrice qui la reconduisait jusqu'à la porte de la pension « Je crois que cette petite sera très reconnaissante. Elle paraît d'ailleurs avoir une excellente nature. Puis elle est très intelligente. L'institutrice anglaise de ma petite fille en a été frappée comme moi en l'entendant parler. Oui, on le voit à ses yeux. Je crois qu'elle ne sera pas une femme ordinaire, physiquement non plus. Malheureusement pour elle. Enfin, je vous la confie, madame, faites-en du moins une femme sérieuse, qui sache se tenir dignement dans la vie. »